RCF.
Il s'est fait connaître du grand public grâce au chemin de croix contemporain réalisé en 2019 pour l'église Saint-Nizier de Lyon. Il achève aujourd'hui pour sa propre paroisse un projet d'envergure, un retable de la Sainte Trinité de 37 mètres carrés. Quand il s'agit d'art sacré, il aime voir les choses en grand et surtout, il bouleverse le spectateur en intégrant dans les scènes bibliques des personnages comme vous et moi, des hommes et des femmes de notre temps. Formé à l'école Émile Kohl, il a passé 11 ans à transmettre sa passion comme professeur de dessin classique et de peinture, avant de consacrer tout son temps justement à l'art sacré. Animé d'une foi ardente, artiste peintre hors du commun, Bruno Desroches se confie cette semaine dans Témoin.
Témoin, présenté par Pauline de Torsiac.
Bruno Desroches, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir dans votre atelier qui se trouve juste au-dessous de l'église de la Trinité. C'est une église qui est située dans un quartier populaire du 8e arrondissement de Lyon. C'est là que vous vivez avec votre femme et vos trois enfants. Et vous avez séduit le curé de la paroisse par votre projet un peu fou, un immense retable de la Sainte Trinité. Comment a mûri ce projet ?
Alors c'était en octobre 2019, juste après l'inauguration du chemin de croix de Saint-Nizier. Et en discutant avec le père Lukasz Skawiński, qui est un prêtre polonais, curé de cette paroisse depuis 6 ans, nous avons eu l'idée de partir des trois grandes tapisseries qui étaient présentes derrière l'autel, sur le mur de l'église, et qui représentaient déjà, depuis les années 70, les trois scènes des évangiles qui manifestent plus clairement, on pourrait dire, la Sainte Trinité. Donc il y avait une tapisserie de l'Annonciation, une autre de la Transfiguration au milieu, et une troisième du baptême du Christ. Donc j'ai eu cette idée un petit peu folle en disant, mon père, est-ce que ça serait une bonne idée de reprendre ces trois images, mais de faire en sorte que chacune d'entre elles puisse s'ouvrir en son milieu, et en ouvrant chacune de ces images et mettant les volets bord à bord, on obtienne une quatrième image immense qui couvrirait tout le mur qui se trouve derrière l'autel, d'où le mot de retable, rétro-tabula, derrière la table.
Et donc cet immense retable, quand on l'ouvre, il fait 11 mètres, c'est ça de...
Voilà, 11 mètres sur 2,60 mètres de haut. Donc c'est une idée beaucoup trop imposante, beaucoup trop folle. Et puis, alors je ne sais pas, peut-être que ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi. En tout cas, le père Lukasz a dit oui, tout de suite, immédiatement, il me dit on y va. Lui et moi, nous ne savions pas dans quoi on s'engageait, heureusement. Et c'est une magnifique aventure de paroisse.
Alors, vous êtes en train de mettre la dernière touche au verso de ce retable qui se situe face à nous. Il sera inauguré le 12 juin, dans quelques jours. C'est un immense panneau de 11 mètres. On va y revenir dans un instant. Mais peut-être arrêtons-nous d'abord sur le recto que vous avez inauguré il y a un an. Le mystère de la Trinité raconté à travers ces trois manifestations dans le Nouveau Testament, l'Annonciation, le baptême du Christ et la Transfiguration. Expliquez-nous tout ça.
Dans la tradition de l'histoire de l'art sacré, nous avons très souvent une annonciation, puisque c'est le tableau de gauche dans l'histoire de l'art, qui représente un Dieu le Père en barbe qui envoie une colombe et un enfant Jésus déjà présent dans le sein de Marie. Donc dans la tradition, voilà, l'annonciation est déjà une présence manifeste de la Trinité. Et puis cette annonciation se passe dans l'appartement d'une jeune fille d'aujourd'hui, comme le peignaient les grands peintres du Moyen-Âge, les Van der Weyden, les Memling et autres, qui plaçaient l'Annonciation dans la maison d'une jeune femme du XVe siècle, avec le lit du XVe siècle, le broc pour faire sa toilette, etc. Et donc moi j'ai fait un petit peu la même chose, j'ai mis un petit ordinateur portable dans un coin pour symboliser la nouvelle évangélisation. J'ai fait habiter Marie entourée de livres, pour symboliser les trois sources de la parole de Dieu pour nous catholiques, que sont le magistère, la tradition et la Sainte Écriture. Donc Marie habite au cœur de la parole de Dieu, et en plus elle a la Sainte Écriture sur les genoux. Et par son oui, la parole de Dieu se fait chair en elle, et la parole de Dieu vient habiter en elle. Donc elle habite au sein de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, le Christ, vient habiter en son sein. Donc il y a cette image très traditionnelle de l'Annonciation qui se passe au temps de l'artiste, comme ça a toujours été fait par les maîtres que j'admire.
Alors au centre Bruno Desroches, on découvre le tableau de la Transfiguration avec dans le ciel un Christ rayonnant. Et puis à terre, les yeux rivés vers le ciel, trois jeunes d'aujourd'hui. Ils sont vêtus de jeans, baskets, smartphones, mais chacun a une attitude qui nous donne finalement un indice sur qui ils sont vraiment.
Voilà, exactement. On a les trois apôtres que le Christ a pris avec lui sur le mont Tabor. Alors là, ce n'est pas le mont Tabor, c'est le mont Cindre à Saint-Cyr au Mont-d'Or, chez nous à Lyon. Donc j'ai replacé déjà la scène dans notre géographie lyonnaise. Et puis alors, on a un petit peu les trois attitudes face à la théophanie, à la manifestation de Dieu. Alors on a Saint Jean qui est très, très semblable au Christ parce qu'il est très proche de lui, c'est peut-être son préféré.
Alors il a les bras ouverts.
Les mains ouvertes et la tête levée, comme le Christ qui a les mains ouvertes et la tête levée vers le Père. On a donc la contemplation avec Saint Jean. On a Saint Jacques au milieu qui est dans la prosternation. Et on a Pierre à droite qui est dans la déstabilisation. Donc je pense que dans notre vie, on peut vivre, puisque ces personnages, comme vous le disiez, nous ressemblent. Ils ont jeans, baskets, téléphone portable dans la poche de Saint Jean.
Il y a des petits détails qui nous permettent de reconnaître quand même que ce sont les apôtres.
Voilà, exactement. On a Jean qui n'a pas de rouge sur lui, donc qui n'est pas mort martyr, contrairement aux chaussettes rouges de Jacques et aux pulls de Saint-Pierre qui sont rouges. Jean est plutôt en bleu. Et puis sur ses baskets, la marque est un aigle, pour qu'on reconnaisse la figure tétramorphique de Jean là, dans l'Apocalypse. Jacques a une coquille sur sa basket. Et puis Saint-Pierre, évidemment, il a ses clés attachées à son jean, avec quand même un petit porte-clés de la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris, que mon épouse Érie m'avait offerte et que j'ai mis pour que Marie soit symboliquement présente à la Transfiguration.
On poursuit Bruno Desroches avec le troisième tableau du recto de ce retable de la Trinité, le baptême du Christ. On devine les quais de Saône, l'église Saint-Georges en arrière-plan, car toutes ces scènes bibliques sont transposées dans un décor lyonnais.
Ce que je voulais dire un petit peu à nos visiteurs lyonnais et autres, c'est que le Christ a été baptisé dans la Saône. Voilà, c'est pour leur faire comprendre que l'Évangile doit se vivre, doit s'incarner, comme le Christ lui-même, dans nos rues, dans nos villes, dans notre rivière, la Saône. Alors j'ai un peu aménagé les quais, je les ai réensauvagés un petit peu, le quai sur lequel est placé debout Jean-Baptiste, qui est rouge lui aussi, qui a lui aussi le rouge du martyr. Et puis par sa stature, il domine, même s'il s'en est défendu, la figure du Christ. Et j'ai voulu peindre un Christ qui est déjà agneau, immolé, un Christ déjà victime, puisqu'il est très humble, il est dans une attitude d'offrande de lui-même, et il présente sa nuque un peu comme l'agneau qui va à l'abattoir. Et puis l'eau est aussi une image de la mort dans laquelle le Christ sera plongé et dont il ressuscitera en ressortant comme Jonas trois jours après.
L'artiste peintre Bruno Desroches est l'invité cette semaine de Témoins sur RCF. Il nous dévoile en exclusivité son retable monumental de la Sainte Trinité. Retable de 37 mètres carrés dont le verso sera inauguré le 12 juin à l'église de la Sainte Trinité à Lyon. Bruno Desroches, vous avez l'art de mettre en scène le Christ avec nos contemporains, à mêler profane et sacré. On va à présent ouvrir le retable pour découvrir un immense tableau de 11 mètres. Il nous présente une vision de Dieu qui donne la vie. Et évidemment, il y a un lien avec les trois tableaux du recto, l'Annonciation, la Transfiguration et le baptême du Christ. Expliquez-nous tout ça.
Chaque recto s'ouvre et va découvrir un triptyque qui va se mettre bord à bord avec le triptyque d'à côté. Donc en fait, on aura trois triptyques côte à côte qui vont former cette immense image de 11 mètres. Alors, Le premier bloc, c'est le bloc de l'Annonciation, c'est le bloc du thème de la fécondité, de Dieu qui donne la vie. Donc on a l'annonce de l'ange à Marie quand c'est fermé, et quand c'est ouvert, quand on ouvre, on a la partie gauche donc, de cet immense verso qui représente l'annonce ancienne à Abraham et Sarah par les trois visiteurs de la Genèse que Abraham va voir sa promesse accomplie et que Sarah sera enceinte d'Isaac un an plus tard. Ce premier bloc qui a pour thème la fécondité, je crois qu'aujourd'hui c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur par mes années de professorat où j'étais beaucoup en contact avec les jeunes. Eh bien, je crois que voilà, ce thème de la fécondité aujourd'hui, de l'accueil de la vie et de l'enfant, est vraiment ce qui tient à cœur beaucoup au Père Lukács aussi. Et voilà, j'en suis très content de ce thème. Et quand on ouvre le panneau central de la Transfiguration, on trouve une croix glorieuse avec l'image d'un Père, de Dieu le Père, derrière cette image du Christ sur une croix glorieuse. Derrière lui, il y a le Père. Et un petit peu encore derrière, il y a la colombe qui symbolise, comme on le sait dans l'Évangile, le Saint-Esprit. Alors cette figure de la Trinité que l'on aperçoit en ouvrant le panneau de la Transfiguration, alors j'ai appris ça il y a quelques temps, s'appelle un trône de grâce. C'est le Père qui offre la croix du Christ au monde en cadeau. Voilà, il offre ce qu'il a de plus cher, son propre Fils, pour pardonner les péchés du monde. Et puis moi j'ai voulu peindre aussi un Christ que je n'avais pas vu chez les grands maîtres que j'admire beaucoup. C'est un Christ qui lève la tête et qui regarde son Père, comme s'il s'offrait lui aussi à son Père. Donc le Père nous offre son Fils crucifié, et le Christ s'offre à nous, puisque son corps ressemble à une hostie, et puis il s'offre à son Père aussi. Donc c'est vraiment un tableau, je dirais, d'autel, c'est vraiment un retable, c'est vraiment un tableau, entre guillemets, pardon d'employer des grands mots, mais eucharistique. C'est vraiment un tableau qui est juste derrière l'autel, puisque à l'autel, eh bien, on a l'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce, où le Christ s'offre à manger à nous, et nous nous offrons nous aussi au Christ. Donc c'est le thème un petit peu voilà, de cette offrande réciproque de la Trinité, avec la colombe derrière.
Autour de cette croix glorieuse, Bruno Desroches, c'est une ode aux personnages de la Bible et aux saints qui se sont finalement succédés dans l'Église.
J'ai repris la tradition de Marie à la droite du Fils, et Jean-Baptiste à sa gauche. Et puis toujours à la droite du Christ, c'est-à-dire du côté du triptyque de l'annonce à Abraham par les trois visiteurs, eh bien, on a déjà les patriarches dans le ciel, dans cette longue cohorte de saints du paradis. Eh bien, donc on a voilà, les patriarches, on a Moïse et Élie qui étaient sur le panneau fermé, on a le roi David, le roi Salomon, les 12 tribus d'Israël avec leur père Jacob, Isaac et Abraham. Et puis sur le panneau du Christ lui-même, on a les 12 apôtres. Donc on a les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui sont séparés par la rainure du volet ouvrant. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire à la gauche du Christ, on a Jean-Baptiste, qui fait un petit peu le pont entre ces deux alliances aussi. Et puis on a entre guillemets les nouveaux saints, c'est-à-dire ceux qui sont venus suite à la fondation de l'Église par les apôtres. Je suis à peu près entre 90 et 100 saints identifiables pour le moment.
Donc ça va du curé d'Ars à Saint-Louis, en passant par Charles de Foucault, Pauline Jaricot, Mère Teresa, Saint-Vincent de Paul, et j'en passe, c'est des meilleurs, c'est ça, Bruno?
Voilà, c'est ça.
Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Il y a le pape Jean-Paul II aussi.
C'est ça. Alors effectivement, il y a un petit hommage, il y a un petit groupe de trois saints polonais d'origine, pour rendre hommage à, je dirais, aux Polonais qui sont paroissiens ici, puisque c'est une paroisse franco-polonaise que la Trinité. Alors on a Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine et Saint Maximilien Kolb. Et puis voilà, c'est un petit peu par thème, c'est vrai, parce qu'à côté de Saint Maximilien Kolb, qui a donné sa vie pour sauver un père de famille, lui qui était prêtre, eh bien j'ai peint Saint Joseph, très discret, un peu comme dans l'Évangile, donc père de famille aussi. Et puis les époux Martin à côté. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper un petit peu par thème. On a Saint Vincent de Paul et Mère Teresa côte à côte. On a le thème marial avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui aimait beaucoup la Vierge, Sainte-Catherine Labouré de la rue du Bac, qui a eu les apparitions de la Vierge, et puis bien sûr Bernadette Soubirous.
Bruno Desroches, ça c'est dans le ciel, c'est aux côtés du Christ glorifié, mais la scène se déroule à Lyon, cette grande fresque se déroule plus précisément place Bellecour, où l'on aperçoit en premier plan des Lyonnais qui s'affairent, ils sont pris dans le tourbillon de leur vie, et là ils se retrouvent littéralement happés par la vision du Christ glorifié. Quel est le sens justement de cette dernière partie du retable que l'on relie finalement au baptême du Christ?
Le baptême qui nous ouvre à la sainteté, c'est le thème de la sainteté. Alors quand on ouvre ce recto, on tombe sur le troisième triptyque, donc de 3,90 m, et ce troisième triptyque présente une grande cohorte de Lyonnais. Cette immense scène de 11 mètres se passe sur le sable orangé de la place Bellecour. Ocre, voilà. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur sur les couleurs, merci Pauline. Donc, de la place Bellecour que tous les Lyonnais connaissent. Et ce sont des passants. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, des gens de toute couleur de peau, de toute origine, de tous âges aussi. Ça va du bébé à la personne âgée en fauteuil roulant. Et ces personnes, en fait, s'arrêtent devant la croix. Et c'est vraiment mon but, c'est que mon travail puisse permettre aux gens de s'arrêter dans leur vie, toujours dans l'urgence, très occupée, très dense, où souvent on n'a pas le temps de prendre quelques secondes, quelques minutes de méditation, et puissent faire comme les personnages du tableau qui leur ressemblent, s'arrêter devant la croix, s'arrêter devant le Christ.
Bruno Desroches, on vous sent habité quand vous parlez de ce retable et d'ailleurs de toutes vos œuvres. Vous êtes en train d'achever ce retable de 37 mètres carrés, ces 3 ans de travail intense. Vous êtes traversé parfois par le doute. Comment est-ce que vous avancez justement?
Déjà, pour le dire très, très rapidement, ce n'est que la 4e année que je peins, je dirais, des tableaux religieux. Parce que je suis sorti de l'école d'art en 2001. Et puis j'ai peint des tableaux entre guillemets profanes, des paysages urbains ou naturels. Et puis après, je suis devenu prof pour enseigner le dessin classique pendant 11 ans à des centaines d'élèves. Et ça a été vraiment une belle expérience. Et c'est à l'occasion au moment du chemin de croix de Saint-Nizier à peu près que ça s'est fait, qu'il y a eu un virage de carrière important. La vie a fait que j'ai décidé de me lancer, ou plutôt aussi de répondre à un appel intérieur, je crois, du bon Dieu, de le peindre, de représenter son corps aussi, de montrer son corps au monde par des images, tout simplement. Et effectivement, oui, il y a vraiment, pour moi, une mission à accomplir. Je pense qu'on en a tous une à notre niveau. Et pour moi, il faut que je fasse quelque chose avant de quitter cette terre, c'est d'utiliser le talent qui m'est confié pour essayer de provoquer une rencontre entre le bon Dieu et peut-être le spectateur qui regardera le tableau.
Bruno Desroches, croyant ou pas, il est difficile de rester indifférent à ses visages, à ses attitudes, ses postures. Vous l'avez dit, il nous ressemble. Comment est-ce que vous parvenez à transmettre cette émotion et finalement à interpeller le spectateur sur le message du Christ?
Alors déjà, ce qui est vraiment important, je suis obligé d'y revenir pour répondre à votre question, ce sont les modèles, ce sont les gens qui m'entourent, qui m'aident, qui m'émerveillent par leur gentillesse, leur volonté de m'aider en prenant la pose, en faisant ce que je leur dis. Toi, tu es à genoux, toi, tu es dans la prosternation. Donc déjà, montrer cette attitude, je dirais, de contemplation du Christ, elle me vient de la gentillesse des gens qui participent au tableau. Et puis, c'est vrai que J'essaye toute la journée en travaillant, durant mes longues journées dans ce grand sous-sol de la Trinité, parce qu'on se situe, comme vous le disiez, sous l'église de la Trinité, dans la grande salle qui n'est plus utilisée pour les spectacles en temps de Covid en ce moment, de prier quand je travaille, en tout cas de méditer. Alors, je ne suis pas Fra Angelico, là, ce peintre qui était un saint, évidemment, mais en tout cas, j'essaye d'être dans une certaine condition, d'écouter par exemple une messe de Bach ou d'écouter la vie des saints que je peins en travaillant, et puis tout simplement d'avoir des phrases très très simples voilà, où je demande l'aide de Dieu, parce que je suis vraiment incapable naturellement, sans son aide, sans l'aide de tous nos paroissiens, de mon épouse, de ma famille, de réaliser un travail aussi ambitieux, aussi fort. Donc, voilà.
Il y a des moments de doute, de stress, d'angoisse un peu?
Alors oui, il n'y a que ça. C'est vraiment mon pain quotidien, le doute, le compte à rebours qui ne cesse de courir depuis quasiment la fin 2019, où on avait déjà les deux dates d'inauguration des trois rectos en mai 21.
Et du Verseau, voilà. Le 12 juin, donc dans quelques jours.
Exactement. Je connais déjà ces dates depuis plus de 2 ans. Et donc, chaque jour qui passe, et un petit peu plus d'angoisse qui s'accumule de savoir est-ce que je vais terminer à temps? Est-ce que je vais être capable de peindre ces immenses personnages grandeur nature? Et honnêtement, je m'en sens complètement incapable. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment compris avec ce projet immense. C'est dans cette incapacité que j'ai de peindre quelque chose d'aussi grand, avec autant de personnages dont je me sentais totalement incapable, que le bon Dieu m'aide, bien simplement. Et donc j'aimerais bien que ce tableau soit un peu le signe de ce que Dieu est capable de faire par nos mains, malgré nos incapacités. Parce que vraiment, j'insiste là-dessus, vous parliez de doutes, ils sont énormes. J'ai aussi des problèmes médicaux qui m'handicapent au quotidien, assez importants. Et donc, c'est vraiment pas quelqu'un de fort qui a réussi à peindre ce grand tableau. Je sais même pas comment c'est possible. Et donc, j'aimerais bien que ça soit un témoignage, voilà, pour tout à chacun, en se disant, avec l'aide de Dieu, c'est quand je suis faible que je suis fort et que je peux réaliser des choses que je croyais complètement inaccessibles.
Et avec un grand talent aussi, vous passez combien d'heures par jour dans votre atelier? C'est quoi une journée type de Bruno Desroches depuis 3 ans?
Alors, donc c'est lever avec les enfants vers 6 heures, parce que voilà, il faut se lever tôt pour les emmener à l'école. Et puis ensuite, c'est une heure de sport obligatoire le matin pour un petit peu me détendre, enlever la pression et puis confier le travail de la journée au bon Dieu, demander l'Esprit Saint pour qu'il vienne m'aider à peindre un peu mieux et un peu plus vite. Et puis ensuite, souvent c'est 9h-21h à l'atelier. J'essaie souvent de bien manger le matin, comme ça, ça m'évite de rentrer à midi, et des bonnes nuits réparatrices pour continuer le lendemain.
Alors justement, quand vous arrivez à l'atelier, comment ça se passe? On aperçoit des palettes, des tubes de peinture à l'huile. Quelle est la technique que vous utilisez justement pour réaliser vos tableaux?
Alors c'est vrai que j'ai appris quelques bases qui me manquaient sur les techniques anciennes, ce que je voulais peindre un petit peu à l'exemple des maîtres du Moyen-Âge, c'est-à-dire une peinture sur bois. C'est une peinture à l'huile sur bois, et alors il faut préparer son panneau de bois avec de multiples couches d'enduit, 7 à 8 couches. Alors pour ceux qui connaissent, c'est très proche de la technique de préparation des panneaux des icônes, pour ceux qui connaissent un petit peu ce sujet-là. Donc c'est une technique de préparation qui a plus de 1000 ans, hein, c'est très traditionnel. On mélange de la craie et de la colle de peau de lapin et, dans une casserole chaude, et puis on va enduire et on va préparer son panneau de bois. Et donc rien que ça prend déjà... Avec une aide, avec un ancien élève, on a passé 1 mois à 2-3 semaines à juste enduire les 40 mètres carrés de panneaux. Juste les enduire et les poncer pour préparer les panneaux. Avant la peinture, il y avait déjà 1 mois de travail à deux. Et ensuite, c'est un travail de peinture à l'huile avec une technique de glacis. C'est tout l'opposé de la peinture au couteau. C'est-à-dire, c'est une peinture qui n'est ni en épaisseur, ni mate. ni opaque. C'est-à-dire, c'est une peinture qui est avec de multiples couches très très fines, qui est transparente et qui est brillante. Quel est l'avantage ? Eh bien, pour moi, c'est d'avoir des possibilités avec ces multiples couches, ces multiples glacis qui sont autant de filtres que l'on applique avec, par transparence. C'est la possibilité de doser de manière extrêmement fine eh bien, une lumière, une ombre. Et c'est une possibilité aussi, par la brillance, d'obtenir des ombres très profondes, beaucoup plus que par des surépaisseurs. Voilà. Et en fait, l'accumulation des couches permet aussi une saturation des couleurs et une profondeur des ombres. Donc pour moi, ça, c'est très important.
Bruno Desroches, vous achevez ce magnifique retable. 3 ans de travail intense, de joie, de doute. Vous nous l'avez dit, vous avez fait le choix de mettre votre talent au service de l'art sacré. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Vous avez d'autres projets ? Et qu'est-ce qui vous anime profondément ?
Alors, comme tout chrétien qui essaye de l'être, je m'en remets à la Providence. Et heureusement, donc, eh bien, j'espère qu'il y aura d'autres beaux projets d'église qui me seront confiés par des paroissiens, par des curés engagés dans la mission et qui comprendront, j'espère, c'est mon but, que l'image est un appui extrêmement fort, extrêmement puissant pour l'évangélisation. Déjà de moi-même, le peintre, parce que c'est déjà un chemin de conversion pour moi-même déjà, et puis pour ceux de la paroisse, et puis surtout pour ceux qui sont loin de l'Église. C'est pas nouveau hein, que l'Église ait passé des commandes au peintre pour parfois, par une image, parler mieux qu'un long discours. Donc oui, j'ai envie de continuer uniquement dans cette voie-là qui m'habite. Ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est qu'une œuvre puisse être accessible dans un lieu public et qu'elle ne se retrouve pas dans un salon de collectionneurs, mais que tout un chacun, qu'un ouvrier du bâtiment qui passe, qu'une maman avec ses enfants, qu'une personne d'une autre religion, et c'est le cas à Saint-Nizier, ça j'en témoigne, puisse être touché. Donc ça, c'est important. Et puis oui, je terminerai par le mot passion. C'est vraiment un mot qui m'intéresse parce que vous savez qui vient du mot souffrir, la passion du Christ. Mais je ne sais pas, je ne suis pas étymologiste, mais je pense qu'il y a dans le mot passion, dont j'ai besoin pour peindre, il y a vraiment le mot souffrance parce que ça aurait été vraiment 2 ans de souffrance au travail et de sacrifices familiaux. Et je remercie vraiment mon épouse qui a accepté beaucoup, beaucoup d'absence et qui m'a beaucoup soutenu. Donc c'était vraiment compliqué. Mais c'est aussi le mot « amour » qui est là, l'amour de la peinture, de ce travail, d'être avec le Seigneur toute la journée, avec des moments célestes où je trouve une solution dans mon tableau. Donc il y a aussi des moments, je dirais, de bonheur énorme. Et puis, c'est aussi, j'espère en tout cas, de l'amour donné pour ceux qui verront ce tableau. Donc c'est-à-dire que je peins aussi pour les autres, je peins pas pour moi. Voilà, donc... passion qui regroupe souffrance et amour dans le même tableau.
Bruno Desroches, merci.
Merci beaucoup.
Je rappelle que votre retable sera inauguré le 12 juin, jour de la fête de la Sainte Trinité. Il est possible d'aller le découvrir sur place dans l'église de la Sainte Trinité, dans le 8e arrondissement de Lyon. Pour en savoir plus, vous pouvez également aller sur le site brunoderoches.fr. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.